RFI, minuit et demi à Goma, 23h30 à Niamey et Yaoundé.
Afrique Soir.
Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Charlotte de Rouen, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette demi-heure d'infos africaines en République démocratique du Congo, après 48 heures d'intenses combats, un calme précaire règne ce soir à Goma. Selon certains hôpitaux de la capitale du Nord Kivu, parlent de plus de 100 morts. La situation a provoqué d'ailleurs des mouvements de colère à Kinshasa, la capitale. Plusieurs ambassades ont été prises pour cible. Des magasins, des restaurants et même des maisons ont été pillées. Et puis au Bénin, la reprise du procès de l'homme d'affaires Olivier Boko et ses co-accusés. Ce mardi, les prévenus se sont présentés sans conseil. Mais la cour a décidé de poursuivre les débats. On parlera aussi de la mobilisation dans plusieurs villes du Burkina Faso et du Niger pour célébrer le retrait des pays de l'AES et de la CDAO. Un retrait qui sera effectif dès ce mercredi. Enfin, un mot d'un rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais remis ce mardi au président Paul Biya. C'est le fruit d'un travail mené par des historiens camerounais et français. Et on commence par la situation en République démocratique du Congo. Après des échanges de tirs ce matin dans la zone de l'aéroport et de fortes détonations entendues dans les quartiers Birere et Bijovu, retour au calme cet après-midi à Goma, calme précaire. Hein. Bonsoir Pierre Firsion.
Bonsoir Zéphirin.
Un retour au calme, je le dis, précaire, mais après 48 heures de combat, le bilan humain semble très lourd.
Oui, plus de 100 morts et près d'un millier de blessés ont été conduits dans les hôpitaux de la ville au cours des trois derniers jours, selon un décompte effectué par l'agence France-Presse. Décompte établi à partir des bilans hospitaliers, des chiffres qui traduisent la violence et l'intensité des combats depuis dimanche. Un bilan qui pourrait nettement s'alourdir, car selon des témoins, de nombreux corps sans vie jonchent les rues de la ville. Les combats se sont peu à peu estompés mardi après une matinée où les tirs d'artillerie ont résonné au centre-ville et dans la zone de l'aéroport, zone où ont été aperçus des éléments du M23, un calme précaire qui a permis aux habitants de sortir timidement dans les rues de Goma. Mais la situation reste tendue. Selon Ocha, des pillages de commerces, de bureaux et d'entrepôts d'organisations humanitaires ont été signalés. La situation humanitaire reste, elle, préoccupante. L'eau et l'électricité sont toujours coupées, alors que l'aéroport, principal point d'entrée de l'aide, est fermé depuis dimanche. Mardi, le programme alimentaire alerté sur un possible manque de provisions de la population. Les prochaines 24 heures seront cruciales, estimé hier le programme alimentaire mondial.
Merci Pierre Firsion. Et deuxième réunion d'urgence en 48 heures du Conseil de sécurité des Nations Unies face justement à l'aggravation de la situation à Goma. Tous les membres appellent à la désescalade. La Russie n'a pas pointé la responsabilité du Rwanda dans les combats. La ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, vient à l'instant d'interpeller le Conseil. Elle lui demande d'exiger le retrait immédiat des forces rwandaises, la prise de sanctions contre les cadres de l'armée et du gouvernement rwandais, un embargo sur le coltan et l'or rwandais et la transparence autour des transferts d'armes au Rwanda. Thérèse Kayikwamba Wagner prévient également sur le risque que le conflit se transforme en tragédie régionale. La ministre a aussi rendu hommage aux quatre casques bleus tombés à Goma.
Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leurs foyers et instauré une administration parallèle, en violation du droit international, et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices? Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain nécessitant une solution africaine revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fondent cette organisation.
Voilà pour la déclaration de la ministre congolaise des Affaires étrangères tout à l'heure au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Le M23 soutenu par l'armée rwandaise, puisqu'on parlait justement du Rwanda. Donc le M23 soutenu par l'armée rwandaise et ce soir, je vous le rappelle, présent dans une grande partie de la ville de Goma. Plus de 1000 réfugiés ont été recueillis dans un centre au Rwanda, à une dizaine de kilomètres de la frontière, dans la localité de Rugerero. Reportage, Lucie Mouillot.
Sur le terrain qui sert de centre d'accueil, les réfugiés arrivent par centaines en bus et en camion. Destin Kela, 24 ans, n'a pu prendre qu'un sac à dos avec lui en quittant Goma. Avec ses amis, il a préféré tenter sa chance dans la matinée, malgré les échanges de tirs encore en cours.
Auprès de nous, il y avait vraiment des voisins qui sont morts. On vient de laisser des cadavres dans le quartier, des jeunes blessés. Alors on s'est dit, au lieu d'attendre que ça nous tombe dessus, il faut vraiment prendre notre destin en main et essayer un peu de partir coûte que coûte. C'est un désastre, il y a vraiment des choses horribles. Il y a des cadavres, on passe sur des cadavres. Il y a vraiment des choses pas vraiment bonnes à voir.
Quelques tentes pour soigner les blessés sont installées dans le centre qui dénombrait à la mi-journée 1200 personnes. Certains venus avec des matelas, des couvertures et beaucoup d'affaires pour rejoindre la frontière. Akili Malilok, habitant de Bukavu en visite à Goma, avait rejoint un large groupe pour traverser la ville.
On s'était dit mais trop c'est trop, il ne faut pas qu'on reste ici. Ils viennent juste de faire la centre-ville un champ de bataille. On s'était dit, mais c'est trop dangereux, il faut qu'on se déplace un tout petit peu, voir qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on peut se réfugier, courir. Et puis du coup, on était arrivé à la frontière. Fort heureusement, on nous a accueillis sans aucun problème.
Les autorités rwandaises se préparent à des arrivées massives de réfugiés. Le centre de Rugerero peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes et un autre site est en cours de préparation. Lucie Mouillot, Guisseni, RFI.
Et en tout cas, la situation qui prévaut actuellement à Goma a provoqué un mouvement de colère à Kinshasa ce mardi. Les manifestants ont attaqué plusieurs ambassades dans la capitale. Conséquence, les manifestations en soutien dans l'est du pays prévues ce mercredi sont reportées. Une décision annoncée ce soir par le gouverneur de la province, Daniel Bumba. À Kinshasa, les précisions de Pauline Azidi.
Daniel Bumba ne parle pas d'annulation. Le gouverneur évoque un report des marches annoncées pour ce mercredi à une date ultérieure qui n'est pas encore fixée. Une décision qui fait donc suite aux violences qui ont touché la ville ce mardi et plus particulièrement son centre administratif, la commune de la Gombe. Plusieurs ambassades ont été la cible des manifestants, notamment celles de la Belgique, de la France, des États-Unis, de l'Ouganda et du Kenya. La tension a été forte une grande partie de la matinée. Des pillages et des dégradations ont été signalés dans plusieurs d'entre elles. Un incendie a même touché l'immeuble qui abrite les anciens bureaux de l'ambassade du Rwanda actuellement fermé. Dans la ville, des magasins, des restaurants ainsi que des habitations ont aussi été pris pour cible par les manifestants qui dénoncent l'inaction, la complicité de la communauté internationale après les derniers événements dans l'Est. Les différents pays concernés ont condamné ces violences. Le gouvernement congolais, lui, a exprimé ses regrets aux missions diplomatiques touchées et a assuré avoir pris des mesures pour garantir leur protection. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
RFI à Kinshasa où il est actuellement 23h39.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Et des manifestations ce mardi dans plusieurs villes du Burkina Faso et du Niger. Manifestations en soutien à la sortie de leur pays de la CEDEAO. Un retrait qui sera effectif ce mercredi à Ouagadougou et à Niamey. Les manifestants ont scandé des propos hostiles à la CEDEAO et ont salué cette nouvelle dynamique qu'ils appellent souveraineté réelle. Abdoulaye Seydou est le coordinateur du M62, un mouvement qui soutient les autorités militaires au pouvoir.
C'est une décision qui a un caractère révolutionnaire du moment où elle nous permet de nous débarrasser d'une chaîne. Toutes les régions, toutes les villes du Niger et tous les chefs-lieux de département, les populations sont sorties massivement par milliers. C'est des millions de personnes, c'est l'ensemble du territoire national qui sont sortis pour montrer que, en dépit des difficultés, en dépit de toutes les manœuvres déstabilisatrices, notre peuple reste debout derrière ces dirigeants. C'est aussi une manière de réaffirmer la légitimité des dirigeants qui sont à la tête de l'AS, de dire que nous sommes conscients que le chemin il est difficile, mais il vaut la peine colle l'empreinte parce que c'est à l'aboutissement de ce combat que se trouve notre bonheur et notre mieux-être.
Voilà, le coordinateur du mouvement M62 au Niger soutient des autorités militaires qui se félicitent donc de ce retrait. Je vous propose d'écouter maintenant un point de vue radicalement opposé, celui du collectif pour la démocratie au Sahel. Il rassemble ce collectif des citoyens maliens, nigériens et burkinabés installés en Europe, des membres de la diaspora opposés au régime militaire actuellement en place dans les trois pays de l'AES, parmi eux le journaliste burkinabé en exil, Ahmed Newton Barry.
C'est une tragédie, un cynisme des militaires qui exploitent l'ignorance des populations. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO, dans l'ensemble africain, est l'une des sous-régions la mieux intégrée, la plus évoluée. À titre d'exemple, à partir du 29 janvier, quand vous avez une voiture à Ouagadougou et que vous voulez aller à Abidjan, il faut que vous payiez deux assurances. Alors qu'avant, avec la CEDEAO, votre carte brune vous permettait d'aller dans les 15 pays de la CEDEAO. Il y a beaucoup plus que ça. Nous avons la seule sous-région où on peut se déplacer avec sa carte d'identité et on peut s'installer partout sans avoir à faire des documents outre mesure.
Et cette décision, elle n'est pas populaire, selon vous, parmi les populations de l'AES ?
On ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle est populaire. Personne n'a été consulté. Il n'est jamais trop tard pour combattre une décision inique.
Voilà des propos recueillis respectivement par Abdoulaye Diko et David Baché. On en vient à la suite du procès Olivier Boko, Oswald Omeki et leur co-accusé au Bénin. Procès sans avocat de la défense. Ce mardi, les prévenus se sont présentés effectivement sans conseil. Ils ont affirmé que l'administration pénitentiaire ne leur a pas facilité la tâche. Pour la Cour, les accusés sont seuls responsables de l'absence d'avocat à leur côté. Jean-Luc Caplogan, ce mardi, à l'audience, les deux principaux accusés ont donc choisi d'observer le silence.
C'est Oswald Omeki, le premier, qui annonce les couleurs. La présidente de la Cour lui demande sa réaction après les dépositions de plusieurs témoins et de trois co-accusés. Il commence par « Il existe un Dieu ». La magistrate le recadre. Nous ne sommes pas dans une église ici. Oswald Omeki ne s'arrête pas, il déroule et lance. Si vous estimez que ce que vous avez entendu ici est cohérent, condamnez-moi. J'aurais souhaité répondre avec mes avocats. Je n'en ai pas, je préfère garder le silence. Olivier Boko dit la même chose. Je ne peux pas vous répondre sans mes avocats, dit l'homme d'affaires. La Cour leur donne acte, ils retournent à leur place et ne diront plus rien jusqu'au renvoi de l'audience à demain. Dans la matinée, le commandant de la garde présidentielle a donné sa version des faits. Son récit met Oswald Omeki au centre de tout. Quand on lui demande pourquoi il n'a pas dissuadé Oswald Omeki au début de la proposition, il répond « J'ai pris le risque de gérer et j'ai informé mon patron au bon moment. »
Jean-Luc Aplogon. Après Emmanuel Macron à Paris le 21 janvier dernier en France, c'est Paul Biya, le président camerounais, qui a reçu aujourd'hui le rapport mémoriel sur le rôle de l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition camerounais. Un rapport de plus de 1000 pages qui a nécessité 2 ans de recherche à la commission d'experts, historiens et sociologues des deux pays. Retour sur la cérémonie de cet après-midi à Yaoundé avec Polycarpe Essomba.
Une cérémonie sous les lambris dorés du Palais de l'Unité où Paul Biya, en note du jour, a d'abord rappelé l'objectif de départ lorsque Emmanuel Macron et lui-même avaient, il y a 2 ans, décidé d'engager ses travaux.
Notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années pour que la relation entre la France et le Cameroun puisse connaître de nouveaux développements.
Présent à Yaoundé pour l'occasion, le ministre français chargé des partenariats internationaux, Tani Mohamed Swahili, a lui aussi abondi dans le même sens.
Cette cérémonie permet de clôturer 2 années de recherches intenses qui ont été menées dans un esprit constructif et collégial. Je salue l'engagement des membres de la commission. Chercheurs, camerounais ou français, venus d'horizons très différents, mais qui ont travaillé comme une seule équipe pour produire ce travail monumental.
Maintenant que le rapport est rendu, il reste à le faire connaître et le président camerounais s'y est engagé.
Il nous appartient dès à présent d'enseigner et surtout de vulgariser ces travaux méritoires de co-construction entre la France et le Cameroun et d'engager nos futures relations sur des bases saines dans un esprit dépouillé de malentendus et de suspicion.
Les parties françaises et camerounaises ont salué cet aboutissement comme un moment important dans l'histoire commune entre les deux pays. Polycarpe Sumba Yaoundé, RFI.
L'Algérie indique ce mardi avoir convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour dénoncer des traitements dégradants auxquels auraient été soumis des passagers algériens arrivés dans des aéroports parisiens. Dans un communiqué officiel, Alger exprime sa profonde préoccupation face aux témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la police aux frontières au niveau des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly. Des milliers de familles ont fui leur foyer dans l'état du Darfour Nord dans l'ouest du Soudan en raison de l'accroissement des attaques des paramilitaires, annonce faite ce mardi par l'Organisation internationale pour les migrations. Direction Madagascar, où les 6 centres régionaux de transfusion sanguine et les quelques 90 points de collecte de sang lancent régulièrement des appels d'urgence aux dons de sang, en particulier pour les rhésus négatifs, dont les besoins sont bien souvent supérieurs aux réserves des établissements hospitaliers. Certains hôpitaux ont trouvé la parade pour éviter au maximum les pénuries de sang, conditionner les opérations programmées à un don de sang d'un proche du patient à opérer. Reportage Sarah Teto.
Pansement à la pliure de l'avant-bras, Nirine, 52 ans, sort du centre régional de transfusion sanguine. Cela fait plus de 10 ans que cette vendeuse de rue vient ici 3 fois par an. Le week-end passé, la commerçante a vu sur Facebook l'appel d'urgence du CHU à JRA. Alors elle a profité de son seul jour de congé hebdomadaire pour venir faire don de 3 poches de sang.
À Madagascar, il y a beaucoup de besoins et peu de donneurs. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. J'ai une amie qui a perdu beaucoup de sang en accouchant à Tana. Le temps que l'on trouve des poches de sang pour elle, c'était trop tard. Elle est décédée. Je me dis que je peux aider facilement à sauver des vies. Et c'est ce qui me motive à venir.
Derrière elle, Tania, 19 ans, vient de donner pour la toute première fois son sang. La fierté et un soulagement aussi se lisent sur son visage.
Ma tante va se faire opérer demain et le docteur a dit qu'il faut d'abord qu'un membre de sa famille donne du sang pour qu'elle puisse en recevoir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est obligatoire, sinon l'opération de ma tante sera reportée.
Si cette stratégie préopératoire combinée aux appels au don du sang permet de maintenir la majeure partie des stocks à l'équilibre, un défi persiste néanmoins. La constitution de réserves en rhésus négatif, particulièrement pour le groupe sanguin au moins. La raison, une très faible prévalence de ce rhésus dans le patrimoine génétique des Malgaches. Alors, pour pallier cette rareté, les donneurs au moins, en grande partie des étrangers, ont été recensés pour être sollicités en cas d'urgence. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Quelle place pour la médiatisation du sport féminin? Comment développer, mettre en avant les compétitions féminines? La question se pose dans quasiment tous les sports. Le Paris Basketball, équipe phare du championnat de France, a organisé une table ronde consacrée au développement du basket féminin en Afrique. C'est un sujet signé Baptiste Leduc.
L'Africa Game du Paris Basketball s'est joué en coulisses. Plutôt que d'attaquer le cercle, Ahmed Taoufik de l'association Enfants du Bénin Debout a pointé les obstacles du développement du basket féminin en Afrique.
Là où il faut qu'on fasse des progrès, c'est le développement de coachs féminines. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que 49% des filles, quand elles arrivent à la puberté, disparaissent du sport. Donc si tu n'as pas d'accompagnement à ce moment-là, en fait, tu fais ton petit sport en guillemets pour rigoler et après tu disparais. Et après, c'est terminé.
Encore faut-il donner l'envie aux jeunes filles de se lancer? À ce sujet, tous s'accordent. Il faut des modèles inspirants comme Diana Gandega, ancienne internationale malienne.
Comme le dit très bien LeBron, on est plus que des athlètes. Donc on a cette force et ce pouvoir en tant qu'athlète, en tant que femme aussi, qui fait qu'on arrive à inspirer et à transmettre un message qui reste.
Et malgré des investissements encore trop souvent réservés au basket masculin, le travail commence à payer. À Washington, Candace Petikou brille sur les parquets universitaires américains et fait la fierté du Bénin, où l'association d'Ahmed Taoufik lui avait pour la première fois mis un ballon entre les mains.
Sujet signé Baptiste Leduc. Et place au dossier Afrique économie de ce soir et on s'intéresse à l'impact de la rupture de l'alliance des États du Sahel avec la CEDEAO. L'organisation régionale ouest-africaine avait donné un délai de 6 mois au Burkina Faso, au Niger et au Mali pour acter ce divorce.
En tout cas, ce mercredi, les trois pays de l'AES sortiront officiellement de la CEDEAO, un acte politique décidé il y a déjà un an. Alors, qu'est-ce qui a été fait durant cette année et quelles sont les perspectives économiques? Élément de réponse avec Charlotte Cosset.
Privé de l'accès à la banque d'investissement de la CEDEAO et donc de 500 millions de dollars de financement, l'AES a annoncé vouloir créer sa propre structure ainsi qu'un fonds d'investissement. Modibo Mahomakalou, économiste malien.
Il y a eu une rencontre très importante à Bamako, des ministères de l'économie et des finances et puis d'autres entités publiques à un très haut niveau pour mettre en place cette banque d'investissement et de développement aussi. Et je pense que la réflexion est assez poussée pour que cette banque puisse voir le jour assez rapidement.
Gros atout pour cet ancien conseiller à la présidence, le riche sous-sol de ces pays, Modibo Mahomakalou.
Nous parlons de l'uranium pour le Niger, le pétrole aussi, le Mali, l'or et le lithium, le Burkina Faso, l'or essentiellement. Évidemment, ça sont des ressources prisées en ce moment et je pense qu'il n'y aura aucun mal à mettre en place une banque d'investissement.
L'AES reste cependant dans l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest et donc de la zone franc.
À la clé, il est prévu à l'horizon 2027 d'avoir une monnaie commune. Ça veut dire que les trois pays, la Confédération de l'AES, se retirent de tout cela.
François Giovalucci, chercheur, ancien du Trésor français, est plus prudent.
Sur les questions monétaires, on n'a pas entendu parler d'avancée. Il était question de mettre en place une banque régionale qui se substituerait à la BIDC. Mais cette banque régionale, vu l'état des finances de ces pays, elle ne peut exister que pour autant que des non-régionaux, c'est-à-dire d'autres pays comme la Chine, veuillent bien apporter du capital. Il faut aussi se poser la question avec beaucoup de doutes puisqu'on a vu que la Chine tend à réduire sa voilure en matière de financement de l'Afrique depuis déjà 2 ans.
Les trois États ont mené des politiques proches de reprise en main du secteur minier, principale source de revenus pour les caisses publiques. Pour le commerce, il a fallu s'adapter. François Giovalucci.
Il y a des voies alternatives, notamment le fait de passer par le Togo, qui est désormais beaucoup plus proche des pays de l'AES qu'il ne l'a été. Il y a des détournements de trafic qu'on va pouvoir mesurer, mais le problème d'un détournement de trafic, c'est que quand on passe par des zones nouvelles, elles peuvent être soit insécures, soit manquer d'infrastructures, donc il y a des surcoûts. Donc ce qu'on a observé, c'est effectivement que le port de Lomé tendait à être privilégié par rapport au port du Bénin, puisque la frontière Bénin-Niger reste fermée, mais ça aura des désavantages et des surcoûts.
L'OCDE notait en décembre que le nouvel itinéraire Lomé-Niamey engendre une augmentation de plus de 100% des coûts logistiques par rapport au trajet d'avant-crise.
Un dossier signé Charlotte Cosset. Et on accueille comme tous les mardis Hervé Mandina alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Zéphirin et bonsoir à tous.
Vous êtes en duplex de Conakry. Vous avez pu assister à la sortie du 2e album de l'artiste Jupiter Davai. C'était samedi, un événement ponctué par un grand concert populaire au stade Petit Sori de Nongo.
Oui, vous me connaissez Zéphirin, j'ai pensé à vous qui n'étiez pas là et je suis allé cueillir quelques réactions du public et des artistes invités pour le show. J'ai même réussi à approcher Jupiter Davibe quelques minutes avant son entrée en scène.
Je te dérange pas trop longtemps, je sais que on a quelques minutes du concert. Je veux juste savoir tes impressions à toi.
Super excité, j'ai juste envie de faire un spectacle. J'ai juste envie de faire plaisir à ceux qui sont là et célébrer mon nouvel album.
Une délégation d'artistes est arrivée de Côte d'Ivoire, parmi lesquels Rémi Adam, qui m'a assuré que...
C'était bien.
Le but de Conakry, c'est pour toi.
Ouais, le but de Conakry, je pense qu'on va revenir. On va faire un concert ici, un concert là, Rémi, ça va bien se passer. Mais déjà, je vais faire une promesse. J'ai la prochaine chanson, elle va chanter en poula. Il y a besoin toujours de mettre 2 coachs, 2 choux-pompons, 2 biscuits, là, je vois. Bien redondante, hein. Et puis, ça va se passer.
Bonne chance à Rémi Adam pour les cours de poula. Sa compatriote, Sarah Lise, par contre, descend aussi de scène et nous livre ses impressions.
Franchement, j'étais contente. J'appréhendais parce que c'est ma première fois ici en Guinée. Et ils ont répondu quand j'ai lancé la capella, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, j'adore, j'aime la chaleur ici. Je disais les rues de Conakry ressemblent un peu aux rues d'Abidjan. Donc je me sens un peu comme chez moi.
Quant au rappeur Elon du célèbre groupe Kiff No Beat, il a littéralement mouillé le maillot et j'ai essayé de savoir si le public de Conakry l'a essoufflé ou pas.
Non, Conakry m'a pas essoufflé. Je suis content de retrouver le public chaleureux, la bonne humeur, la joie de vivre. Conakry, je me sens... Ne rentre pas dans la comparaison. En tout cas, actuellement...
Et il n'y a pas qu'en coulisses que l'ambiance était au rendez-vous, le public aussi a apprécié le show.
Pour Jupiter, c'est moi Nati, je l'aime, c'est mon frère.
j'apprécie Jupiter depuis que j'étais petit. Et c'est un artiste formidable qui représente la Guinée-Conakry. Mais j'aimerais un jour être proche de lui et lui dire combien de fois il est bien et combien de fois je l'aime aussi.
En fait, moi sérieusement, moi je suis fier de ce qu'il a fait. Il a promis un film et puis on voit un film en ce moment, tu vois. Il voit la couleur guinéenne en fait à l'international. Donc j'ai juste lui souhaiter bonne chance et je suis fier de lui. Je suis fier de ce qu'il fait actuellement.
La Guinée, on doit remercier Jupiter. Et je suis fier d'être Guinéen.
Voilà, frère.
À l'instant, c'était Lil Sako sur scène du groupe Instinct Killer qui exprimait tout le bien qu'il pense de son ami Jupiter. Le chanteur Hiro, lui aussi invité, était le dernier à monter sur scène.
Toujours content de venir à Conakry?
Ah, toujours content, c'est un réel plaisir. C'est un pays que j'aime beaucoup, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps.
Pour 2025, on peut souhaiter quoi à Jupiter?
Beaucoup de réussite pour son projet. Une grosse tournée. Voilà, qu'il aille faire la promotion de sa musique partout. C'est tout ce que je souhaite.
Voilà, le concert à présent terminé. L'occasion pour Jupiter de nous donner son ressenti à chaud.
Conakry 2025, c'est fait?
Ouais, c'est fait. C'était une belle fête. On a célébré le chapitre 2, donc tout va bien dans tous les cas. On va enchaîner, on va défendre l'album. Tu vois comment je parle, on dirait je suis au sportif.
Ouais.
Parce que voilà, on était sur scène pendant 2 heures de temps quasiment. Et on a fait le show, donc voilà, on va enchaîner.
Baki Kone, l'ancien joueur international ivoirien, était lui aussi présent dans le stade avec un sentiment de satisfaction.
Jupiter, félicitations. Que ce soit au niveau de l'organisation, de la tenue, au niveau des artistes qui sont passés. J'ai vu que le public aussi a répondu présent, vibré à chaque pas, chaque chanson. En tout cas, félicitations, tu as tout mon soutien et j'ai été vraiment content d'être là en tout cas.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui mon cher Zéphirin. Et pour se quitter, je vous propose d'écouter le titre « Madame », nouveau single de Jupiter Davibe, extrait de l'album « Fabeland » chapitre 2, disponible sur toutes les plateformes. C'était DJ Facemaker depuis Conakry pour RFI.
Et c'est donc avec ce titre « Madame » du chanteur guinéen Jupiter Davibe que l'on referme cette page musicale certifiée Afro Club proposée, vous l'avez entendu, par Hervé Mondina alias DJ Facemaker depuis Conakry. Retrouvez toutes ces sélections sur l'onglet musique de notre site internet rfi.fr. Vous y retrouverez aussi sur la page prixdécouverte.com ou rfi.fr/musique les noms des 10 candidats finalistes. Notez que le public peut voter, son choix comptera pour une voix dans le jury final présidé cette année par Angélique Kidjo. Verdict le 18 février prochain sur RFI.
Le moment est arrivé, j'ai fait mon choix.
Et voilà madame. Oh yeah yeah, applaudissez madame. Oh yeah yeah. Madame, aujourd'hui et pour toujours, je fais de toi ma femme. Maintenant nous sommes liés, et mes enfants, je veux que tu sois leur mère. Et contre vents et marées, tiens-moi la main, en tenant bon yombolo. Elle est là, regardez, elle est là. Oh mon Dieu, qu'elle est belle. Oh mon Dieu, que je t'aime. Tu verras, ma BFF pour la vie. Mindo bende ande no wali. Bye tigiri minko ami soubi. J'avais trop demandé, m'avait beaucoup stressé. Le moment est arrivé, j'ai fait mon choix. Et voilà madame.
Afrique Soir, réalisé aujourd'hui par Raphaël Lazizi, rédactrice en chef Sabine Mellet, attachée d'édition Simon Bulbaudin. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Radio France Internationale.
demain sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Les contes ne se racontent pas seulement au coin du feu ou sous le baobab, ils s'illustrent, s'écrivent en bande dessinée et sont à l'honneur de la 52e édition du Salon de la BD d'Angoulême. Car il y a les contes traditionnels mais aussi des créations comme Émile et Margot qui font fureur